Tout s'est bien passé aux États-Unis?
Oui. J'étais très content. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de gens très intéressants. Donc j'étais vraiment content.
Et vous avez passé combien de temps?
Un peu plus de 2 mois.
C'est assez long. Alors, je voudrais vous entretenir sur quelques détails biographiques d'abord, parce que peut-être un peu plus tard, on peut discuter quelques problèmes que j'ai avec vos théories. Mais je voudrais savoir d'abord comment vous êtes devenu sociologue, comment avez-vous choisi la sociologie? Comment votre formation a abouti à la sociologie, parce que c'était pas évident au début, n'est-ce pas?
Bon, ça, je peux vous dire très vite en quelques mots.
Oui, c'est ça mon question.
Je faisais de la philosophie. Bon, je me destinais à la philosophie. Je voulais faire un travail de phénoménologie de la vie affective. J'ai commencé à travailler là-dessus. Bon, puis je suis parti en Algérie comme soldat. Et je me suis à ce moment-là proposé de faire, mais comment dire, en passant, un travail d'ethnologie et de sociologie sur l'Afrique du Nord, en partie pour expliquer, faire comprendre aux Français, expliquer un peu la situation, parce que j'avais l'impression que les Français comprenaient très mal. Donc c'était un livre que je voulais faire un peu comme ça, comme un livre militant, là au clairon, quoi. Bon. Et puis, peu à peu, je me suis pris au jeu. J'ai continué très longtemps jusqu'à mon retour d'Algérie, jusqu'en 61, 62. Je continuais à travailler à mes recherches phénoménologiques. J'ai abandonné peu à peu la phénoménologie pour l'ethnologie. Et après, ça a été pareil pour le passage de l'ethnologie à la sociologie. Je continue à faire de l'ethnologie jusqu'en 1965-66. Bon. Et les travaux de sociologie de l'éducation, par exemple, que j'ai entrepris, c'était un peu dans la même logique que les travaux qui m'avaient poussé à faire des travaux de sociologie de l'Algérie. C'est-à-dire, bon, à l'époque, les étudiants avaient un mouvement autour de la guerre d'Algérie, il y avait l'UNEF, l'association des étudiants, etc. Et bon, ces gens-là étaient très très gentils, très progressistes, mais ils disaient d'énormes bêtises sur le monde étudiant. Bon, alors donc j'ai entrepris de faire des enquêtes comme ça, sur les étudiants, d'abord pour comprendre mieux ce qu'étaient les étudiants, donc, concrètement, dans ma classe, dans ma classe que j'enseignais, et aussi pour mettre un peu de clarté dans ce débat qui était très confus. Bon, au fond, donc je faisais ça comme un hobby. Et en même temps, je continuais à faire, mais ce qui me paraissait sérieux, mes analyses sur la parenté, sur le rituel, kabyle, sur l'économie précapitaliste, etc. Bon, et puis peu à peu, le travail de sociologie a pris de plus en plus d'importance. Je suis passé à la sociologie et j'ai fini en quelque sorte l'ethnologie avec outline, avec des esquisses. Voilà. Donc au fond, ça a été toujours des espèces de non-choix. J'ai choisi sans choisir. Sans me l'avouer.
C'était un besoin plutôt pratique
Oui,
que
c'est ça.
théorique
Oui,
au
c'est ça.
début.
Oui, c'était un peu pour un besoin presque militant. C'était pour dire aux gens, bon, c'est le travail de l'intellectuel de dire un peu ce qui est. Les gens disent n'importe quoi sur l'Algérie, il y a des journalistes, bon, c'est un enjeu très grave, il faudrait quand même voir un peu ce qu'il en est. Quoi, voilà. Mais je ne considérais pas ça comme un travail intellectuel important pour moi.
Mais en même temps, vous vous intéressiez à la théorie sociologique en tant qu'elle.
Oui, pas tellement, en fond. C'est venu après, peu à peu. Enfin, c'est compliqué. C'est venu après. C'est-à-dire que, après, sur l'ethnologie, j'avais des problèmes. Ça, c'est très compliqué. J'avais des problèmes théoriques, mais oui, c'est vrai que tout de suite, j'étais en. Par exemple, bon, les problèmes que j'ai posés à propos de Sartre, c'est au fond les problèmes que je me posais à propos de la phénoménologie. C'est-à-dire que là, j'ai transféré font tout le travail que j'avais fait avant sur Husserl, Sartre, Merleau-Ponty, etc. Toute la théorie au fond de l'émotion, de la vie affective, la notion de synthèse passive, de potentialité objective, etc. Tout un débat très central, le débat Sartre-Merleau-Ponty finalement. Bon, qui est un débat très central, qui reste d'ailleurs, je pense, un débat très important actuellement. Je pense que c'est au fond l'opposition entre Sartre et Merleau-Ponty, ça désigne assez bien les deux grands paradigmes, finalement, en sciences sociales, le paradigme théorie de la décision, etc., et le paradigme que j'essaie de développer. Donc j'avais des problèmes théoriques de ce type-là, que j'ai retrouvés évidemment sur le terrain. Mais bon, très vite, ces problèmes se sont transformés avec le structuralisme, avec tout le problème des théories de la parenté, le problème des règles, etc. Là, c'est développé tout un nouveau type de problème.
Mais vous n'étiez pas beaucoup touché par les pères fondateurs de la sociologie comme Durkheim,
Non, pas beaucoup. Non,
Marx, Weber.
Weber, oui, après. Weber, j'ai dû commencer. Weber, je l'ai lu d'abord tout au début quand je travaillais sur l'Algérie pour mon premier petit livre. Là, moi, je m'étais servi. Il y a une société qui s'appelle le Mozabite. C'est des gens qui habitent dans le désert et qui sont des musulmans, mais dissidents. C'est un peu comme des protestants. Ils s'appellent les Khalidjites. C'est des gens qui sont puritains, qui s'imposent plus de discipline, d'ascétisme, si vous voulez, que les musulmans ordinaires. Et donc, je m'étais servi de Weber pour interpréter les caractéristiques des sociétés par analogie avec les caractéristiques des protestants. Bon, ce qui, je crois, d'ailleurs, est vrai en gros, quoi. Bon. Mais Weber m'avait pas fait beaucoup d'effet. J'avais surtout travaillé l'éthique protestante et tout petit peu la sociologie religieuse. Et c'est après, alors bon, quant à Durkheim, alors bon, pour moi, Durkheim, c'était affreux, c'était le temps où j'étais étudiant, c'était ce qu'il y avait de plus affreux. Nous avions le dernier des Durkheimiens, là, qui était encore professeur, il y avait David, qui était un professeur important, bon, et puis il y avait Cuvillier, qui était un disciple mineur des Durkheimiens, tout ça, bon. Donc, dire que collectivement, quoi, nous, philosophes, prétendant à être philosophes, nous développions contre tout ce qui était Durkheim,
c'était la tradition
oui,
sociologique.
positivisme, sociologie, etc. Donc il y avait une espèce d'horreur de Durkheim, quoi. On ne voulait pas en entendre parler, c'était méprisé académiquement, etc. Et je pense que cette tradition de mépris de Durkheim est toujours vraie chez les philosophes. Enfin, bon, alors je me rappelle que quand je suis revenu d'Algérie, j'ai eu un poste d'assistant à la Sorbonne. À Rome, m'a dit, ah oui, vous êtes normalien, bon, donc vous êtes capable d'enseigner Durkheim. Bon, pour moi, c'était affreux d'enseigner Durkheim, rien de pire. J'ai commencé finalement, alors j'avais lu Durkheim comme élève, comme ça, j'avais lu les règles de la méthode, les formes religieuses, etc. Mais j'ai eu à les lire pour les enseigner. C'est là que ça a commencé à m'intéresser beaucoup, parce que ça m'aidait beaucoup pour mon travail empirique d'Algérie. C'est-à-dire que je découvrais que c'était plein de choses très intéressantes. Alors Mauss encore plus. Bon, et puis après, je suis passé à Weber. Mais enfin, ces auteurs-là, oui, c'est pas de là que je suis parti, quoi. Après, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fréquentés. C'est-à-dire que bon, j'ai été plongé là-dedans. Surtout dans Weber, ensuite j'ai enseigné Weber pendant plusieurs années, et par exemple la notion de champ, au fond je l'avais confusément en tête, mais je l'ai trouvé en enseignant Weber. Je n'arrivais pas à enseigner le chapitre là, des affaires sur les agents religieux, et ça m'ennuyait beaucoup, je ne savais pas comment enseigner ça, c'était tout à fait descriptif, une série de types, d'exceptions, etc. Bon, et je ne voyais pas la logique. Et puis un jour, comme ça, j'avais fait le cours une année et je le refaisais une autre année. Et tout d'un coup, j'ai commencé à faire un schéma au tableau et je me suis dit, c'est évident, il faut étudier ces personnages en relation. Et donc, dès qu'on les étudie en relation, tout ce qui. Enfin, bon, ça devient très facile à raconter, quoi. Alors que Avant, bon, j'étais collé au texte de V, je me disais, voilà, le prophète, ici, ça, puis il y a le prophète exemplaire, puis ici, puis ça. Bon, j'étais obligé de pratiquement de lire, de paraphraser le texte de V. Là, je fermais le livre, à partir de mon schéma, je pouvais raconter tout V. Donc, parce que je pense que j'avais une espèce de matrice bon, structurale, finalement. Et alors, évidemment, si j'ai pu faire ça, c'est qu'au même moment, je faisais des choses plus structuralistes. Sur la parenté, sur la maison cabine, etc., etc. Donc j'avais le mode de pensée structuraliste en tête, et j'ai lu au fond un texte pré-structuraliste avec le mode de pensée structuraliste, ce qui fait que ce texte, bon, c'est vrai que je lui ai fait dire des choses qu'il dit d'une manière évidente, une fois que j'ai dit, mais avant c'était évident que ça ne se voyait pas du tout, quoi. Voilà, ça c'est.
Mais au fond, vous vous sentez encore ethnologue plutôt que sociologue? Qu'est-ce qu'on peut...
Bon, je pense que c'est une fausse différence. Moi, je pense que c'est une différence qui vient de raison d'être historique, bon, qui est liée à une division du travail, qui est elle-même liée à la situation coloniale. Bon, ça n'a aucune justification. J'ai vu récemment un papier d'un ethnologue de Philadelphie, son nom m'échappe, qui est un indianiste d'origine indienne, sur la. C'est un très joli papier sur le rôle du lieu dans l'anthropologie. Alors il montre que les différents lieux, l'Océanie, l'Afrique, etc., bon, sont quelque chose de spécialisé. Les théories de la parenté, ça va être l'Afrique, les théories du pouvoir, ça va être la Mélanésie. Bon, il montre aussi que alors, les civilisations historiques, quoi, les grandes civilisations comme l'Inde, comme les pays arabes, etc., ils ne savent pas comment faire. Parce qu'elles ne sont ni occidentales, ni primitives. Bon, voilà. Alors, il y a une part énorme d'arbitraire dans cette division entre ethnologie et sociologie. Et moi, je pense que cette différence n'existe pas. Bon, alors, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des différences, qu'il n'y ait pas à se poser le problème des différences entre sociétés pas, où le capital économique n'est pas concentré, où le capital culturel n'est pas concentré, etc. Enfin, ce que j'ai développé un peu dans le sens pratique. Bon, je pense qu'il y a des différences, mais ces différences, ce n'est ni l'ethnologie ni la sociologie qui peut les étudier. C'est une science qui intègre les deux. Bon, je pense que très souvent, le fait que ce soit séparé a des effets scientifiques tout à fait néfastes. Par exemple, les ethnologues font de la sociologie sauvage. Bon, très souvent, des gens, même les meilleurs, des gens comme Salins, bon, quand ils sont à faire de la sociologie, c'est terrifiant. On nous dit énorme d'amis. Et les sociologues font, quand c'est plus rare, parce que les sociologues sont très incultes, souvent, ça va même, que leurs petites, surtout américains, ils ont leurs petits échantillons. Donc, quand ils font de la sociologie, c'est de l'ethnologie, c'est souvent de l'ethnologie de salon, quoi. Ils prennent comme ça, potlatch, quelques références, romance par exemple, bon, réciprocité, etc. Bon, encore romance, c'est. Les, bon, ça veut dire qu'ils ont une espèce de perception assez simpliste des mécanismes des sociétés à faible capital, quasiment accumulé. Bon. Et alors moi, ce que je pense, enfin, bon, ce qui a été, je crois, une de mes chances, enfin, ça a été quand même ça, de faire vraiment de l'ethnologie avant de faire de la sociologie. Bon, je pense enfin, c'est un peu bête de dire ça, mais je crois que d'abord c'est un mode de pensée permanent. Constamment, je fais comparaison par exemple dans mes cours du Collège de France, bon, constamment les cavilles reviennent à propos de choses tout à fait différentes, que ce soit d'autorité, nomination. Bon, je peux parler à propos du problème de l'identité, j'ai parlé de la transmission du nom propre chez les cavilles. Bon, alors, je pense qu'il y a des choses qu'on voit beaucoup mieux dans les sociétés précapitalistes. Par exemple, bon, tous les phénomènes de rituels, les rites de passage, les rites de nomination, ça, il y a des mécanismes qui sont beaucoup plus faciles à voir. Bon, alors quand on les a vus bien dans ces situations-là, on peut les voir sous des formes masquées, bureaucratisées. La bureaucratisation masque souvent les effets magiques. Par exemple, l'effet de nomination. Bon, je t'appelle comme ça, donc dans le cas de la famille, on voit bien qu'il y a des luttes entre eux, les deux frères, pour avoir le nom du grand-père. Bon, ça, c'est le père des deux frères. Bon, pour leur fils, bon, là, on voit bien que le nom est un enjeu. Bon, quand on arrive au truc bureaucratique et qu'on dit je vous nomme assistant professeur à Leeds, on se rend plus compte que c'est un acte magique. Bon. Ou alors si on le dit, on dit ça devient une métaphore chic. Et bon. Alors que c'est vraiment un acte magique, et la bureaucratie fait constamment des actes magiques. Alors comme ils sont bureaucratiques, c'est-à-dire apparemment rationnels, bon, et que d'autre part ils font partie de notre société, c'est-à-dire que c'est banal, on est habitué, on ne les voit pas. Voilà. Alors que bon, moi, mon travail, ça a consisté très souvent, enfin bon, je prends les choses les meilleures que j'ai faites, par exemple un papier que j'aime beaucoup, qui est sur les rites d'institution. Bon, ça c'est vrai que ça consiste à combiner brusquement. Mais moi, ça c'est amusant, très souvent, ça, c'est une espèce de clash, comme ça, c'est-à-dire deux choses séparées qui se mettent à communiquer. Et alors je fais communiquer la notion de rite, de circoncision, que j'ai étudié, j'ai passé des heures à essayer de comprendre pourquoi, comment ça peut marcher, pourquoi les gens investissent tellement dans la circoncision, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Bon. Et puis de l'autre côté, le titre scolaire. Bon, alors ça, c'est très très rare. Bon, vraiment, je pense que je suis le seul à faire ça. Et à ce moment-là, ça fait des effets extraordinaires de débanalisation. Puis alors quand ça commence à marcher, ça marche dans les deux sens. Bon, je peux voir quand même, attention, quand je t'appelle Brahmi, bon, mais c'est pas comme si je t'appelais je sais pas, moi, président de la République. C'est trop différent. Dans un cas, il n'y a pas de garantie de l'État, bon, bref, il n'y a pas l'écrit. Donc ça éclaire très vite toute la chose. Donc à la fois, ça donne des fondements anthropologiques communs et des principes de différenciation réels. Donc ça, je pense, c'est une de mes chances. D'avoir fait ça successivement et en profondeur. Parce que c'est vrai que j'ai été, des anthropologues. À Chicago, par exemple, j'ai été invité par les anthropologues. Partout, aux États-Unis, je suis beaucoup plus connu comme anthropologue que comme sociologue.
Oui. J'ai l'impression qu'en Angleterre, que certains vous critiquent d'être trop peut-être théorique,
théorique c'est ça.
Que pratique.
C'est parce qu'ils ne connaissent pas très souvent, parce qu'ils ne connaissent que les choses publiées.
Quand même, je crois que vous avez une théorie qui est assez terminée maintenant, cette synthèse entre la subjectivité et l'objectif.
Oui, elle est terminée. En fait, la partie importante de ma théorie n'est pas publiée. Moi, je dis ça comme ça en plaisantant, mais c'est vrai, je pense qu'au fond, ce n'est que les œuvres de jeunesse. Au fond, les choses les plus importantes que j'ai à dire sont complètement inédites. Par exemple, là, il y avait une fille, bon, actuellement, ça c'est un peu comme ça, je pense être un petit peu à la mode, comme ça, dans les pays anglo-saxons. Alors, c'est une fille canadienne qui voulait faire un livre sur moi. Je lui ai dit, attendez, parce que ça n'a pas de sens. Mon œuvre n'est pas finie. Les choses les plus importantes n'ont pas paru. Bon, je pense en particulier tout ce qui concerne la notion de champ. Bon, bien sûr, pour les gens qui ont lu tous les articles, etc., bon, ils peuvent déjà avoir une idée de ce que je vais faire. Mais moi, je sais, je travaille sur ces choses depuis maintenant 5 ans. Le livre n'est pas fini il y a 4 ans. Bon, je sais à quel point je travaille par rapport à ce qui est publié. Bon, et en plus, alors il y a par exemple ce que j'ai fait dans mon cours depuis maintenant 5 ans, pour essayer de systématiser habitus, capital, champ, tout ça, bon, stratégie, enfin, tous ces concepts, c'est loin d'être fini. C'est plein de problèmes, plein de difficultés. Oui, bon.
Je voulais vous demander à quel point. Vous vous êtes rendu compte que, quoi, pas la théorie était terminée, mais quand même, pour moi, je n'ai pas lu votre œuvre chronologiquement, mais j'ai lu dans un des entretiens que vous avez fait avec des Allemands, ils ont essayé de vous donner une chronologie quoi, entre l'objectiviste du déclassement, reconstitution de la réalité sociale sur un niveau différent. Mais quand même, il y a eu une lutte à un certain temps pour vous entre la subjectivité et l'objectivité, parce que c'est quelque chose qui se posait dans la sociologie. Oui. Et pour moi, votre œuvre, c'est la première que j'ai lue où il y a une synthèse où la pratique, la dialectique est réintroduite, si vous voulez. Parce que normalement, en Angleterre, il y a quelques ans, on est soit objectiviste, soit juste objectiviste, mais pas. Il y avait ce grand débat, et je pensais moi-même que c'était faux, grand débat.
Oui, ceci dit, c'est un débat tellement difficile que c'est jamais fini. Donc, par exemple, je pense que là, presque tous les jours, je fais des progrès de ce point de vue-là. Au fond, c'est très compliqué parce que si je voulais, je pourrais dire, je peux vous montrer que même des sociologies de l'Algérie, qui est un petit livre, au fond, qui était comme une dissertation d'étudiants, hein. Dès ce moment-là, il y a déjà habitus, il y a déjà capital symbolique. Pratiquement, un certain nombre d'idées centrales y sont déjà. A
Et vous
fortiori,
étiez conscient de la profondeur de ces notions?
c'est compliqué. À ce niveau-là, non. Mais par exemple, je me rappelle, j'avais dit la tribu est un nom. Ce n'est qu'un nom, ça existe symboliquement, quoi. Alors, ça, je savais que c'était important. Parce qu'il y avait des grandes discussions, est-ce que la tribu existe, est-ce qu'elle n'existe pas. Donc là, j'avais conscience que c'était important. Simplement, en même temps, je ne savais pas du tout. Je n'avais pas le concept de capital symbolique. Je n'étais pas rattaché à des tas de choses, comme maintenant. Je suis rattaché à tout un système. Donc c'était un coup, mais qui allait dans une certaine direction. C'est-à-dire, alors a fortiori, quand vous prenez le déracinement, ou quand vous prenez un autre article, un autre texte qui est le célibat et conditions paysannes, qui est là, déjà, tous les problèmes y étaient. La conclusion, c'était objectivisme et subjectivisme, avis de société, etc. Bon, mais ça y était sous quelle forme? Moi, je sais, à l'époque, je suis étonné, quand je relis, de ne pas avoir commis plus d'erreurs. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais dans la confusion, je me battais, c'était très très difficile.
Et vous parlez de quelle année à peu
Bon,
près?
ça, c'était entre 60 et 65. C'était des années, oui, très très difficiles, quoi. Par exemple, l'idée qu'il fallait dépasser l'opposition subjectivisme et objectivisme, bon, ça, c'est une idée que j'ai eue très vite. Bon, en partie, d'ailleurs, parce que c'était la même chose que je voulais faire en phénoménologie. J'avais exactement la même idée. Alors, pour des raisons, je pense, d'ailleurs, pour une part sociale, personnelle, qui tenait au fait que je sentais bien le côté intellectualiste, au fond intellectuel de l'objectivisme, hein, qui met les gens à distance. Ah bon. Et je voyais aussi le côté utopiste, irresponsable, grand bourgeois gauchiste du subjectivisme, j'avais l'intuition de ça. Bon. Donc je savais bien qu'il fallait dépasser ça, mais je ne savais pas trop comment. Bon, alors beaucoup de choses, bon, et encore aujourd'hui, par exemple, là, ce matin, c'est vrai que j'avais des thèmes de migraine, etc., c'était pas très en forme, mais en plus, bon, j'avais à dire des choses autour de tout ça. Ou encore aujourd'hui, je me dis, mais voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le champ du pouvoir? Je sais que c'est un énorme progrès, le champ du pouvoir, c'est un énorme progrès. Si j'étais, il faudrait que je fasse défiler tous les articles, les études, etc., bon, et montrer toutes les erreurs, y compris les erreurs empiriques que font les gens parce qu'ils n'ont pas cette notion. Mais en même temps, une fois que je laisse ça, hein, parce que ça, c'est uniquement pour se rassurer, pour faire des effets, mais quand on dit, bon, moi, je suis tout seul avec la vérité, hein. Ah, c'est bien compliqué, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, bon. Ouais, ça tout le temps. Alors, même, je sais pas, la notion de capital symbolique, je me rappelle avoir eu des discussions pendant des heures avec Botanski, où on tournait en rond, etc. Bon, puis brusquement, un jour, ben, tu vois, dans ce matin, j'étais en train de me raser, et je me suis dit, mais au fond, Marx disait, le champ politique, enfin, il n'appelait pas ça champ politique, bon, est une scène de théâtre où s'expriment les luttes de classe, des choses comme ça. Bon. Et moi j'ai dit, bon, il a dit que c'était toute la société, c'est pas vrai, c'est le théâtre du champ du pouvoir. Bon. Non, je suis allé l'écrire, parce que j'ai appris en vieillissant qu'on oublie ses propres idées très vite. Bon, je suis allé marquer ça. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Je pense que moi je sens ça comme une avancée énorme, comme quelque chose de très important. C'est une articulation qui manquait. J'avais dit, bon, le monde politique est un théâtre. Bon, j'avais de l'autre côté le champ du pouvoir. Bon, voilà, hein, maintenant, il faut travailler. Et j'en suis à ce stade. J'ai été constamment à ce stade-là. C'est-à-dire, je vois une erreur qui tombe. Ça, je sens quelque chose qui est tombé. Bon, puis, de nouveau, c'est confus, c'est pas clair. Comment ça va s'articuler avec le reste Bon, alors ça, là, je pose ça abstraitement, mais en général, ça se pose concrètement à propos de travail, à propos je sais pas, moi, des évêques, à propos de statistiques. Etc. Alors ça, c'est une parenthèse que je veux faire. Bon, les anglo-saxons en général, hein, ont une représentation empiriste, positiviste de du travail empirique. Bon. Ça, je crois, c'est un fait social, historique, ça remonte à Bacon, c'est assez vieux comme le monde, etc. Bon. Et, c'est comme ça. Hein, bon. Et il y a un chapitre de Cassir, très beau, dans le siècle des Lumières, bon, sur l'opposition entre les cartésiens et les... Bon, qui résume très bien ça, je trouve. Hein, bon. Bon, ceci dit, alors moi je pense que je suis un des plus empiristes des spécialistes de sciences sociales vivants. Bon. Simplement, si les gens disent mais Bourdieu c'est théorique, etc., c'est parce qu'ils ne reconnaissent pas l'empirie dont ils ont l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, bon, il y a une manière de faire de l'empirie, bon, qui, je suppose, il y a des canons, on dit j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai raconté ci, j'ai raconté ça, ça. Moi, je suis un peu comme font les mathématiciens. Les mathématiciens, après, ils ne vont pas vous dire c'est trivial. Bon, hein, ils ne vont pas vous faire une démonstration dans tous les détails. Bon, vous faites confiance, vous ne faites pas confiance, bon, je ne sais pas comment dire. Vous voyez, moi je pense qu'il y a une part de ce qu'on raconte dans les articles dits scientifiques qui n'a aucun intérêt, quoi. C'est fait uniquement pour être en règle avec la profession. Bon, alors qu'en fait, on doit pouvoir se faire confiance. Et moi je pense que très souvent, les objections qu'on m'a fait par exemple aux États-Unis, les gens me disent, ils ont toujours le préjugé. C'est un français, donc c'est théorique, donc c'est pas empirique. C'est des faits de préjugés, c'est qu'on pense, bon, attention, je suis en Italie, fais attention, on va brûler mon portefeuille. Bon, quand c'est un français, on pense tout de suite, oui, il va nous faire de la théorie, des trucs brillants, de la rhétorique, mais il n'y aura pas de données empiriques. Bon. Alors, pour bon, ça, je pense que bon, ce préjugé, bon, qui est justifié malheureusement par la plupart des travaux des Français, bon, dans mon cas, est tout à fait injuste, parce que je fais beaucoup d'empirie, plus, alors, sûrement, que la plupart des sociologues qui se croient empiristes d'un pays anglo-saxon. Simplement, je fais une empirie d'un autre type, c'est-à-dire que, par exemple, je pense que des choses qu'on voit comme des erreurs, ce sont des choix, et des choix théoriques, c'est-à-dire des choix d'échantillonnage, des choix de construction d'objets. Bon, un exemple entre mille, bon, je ne sais pas, je prends les trois quarts des travaux anglo-saxons sur les intellectuels, bon, commettent une erreur monstrueuse qui est l'erreur de quand vous faites un échantillon, hein, l'échantillon, c'est une population sélectionnée aléatoirement, hein, dans une population mère. Hein. Du point de vue théorique, ce qui est important, c'est la population mère. Bon, calculer l'échantillon, tout le monde sait faire ça. Hein. Bon, on prend une table de nombre au hasard, on peut choisir tel ou tel type d'échantillon, etc. Ça, tout le monde sait faire ça. C'est la méthodologie élémentaire. Alors les gens me diront, voyons votre échantillonnage, est-ce que c'est du sampling, est-ce que c'est bien, pas bien, etc. Bon, c'est pas là. C'est votre population mère, comment elle est découpée. Or, tout le problème, par exemple, pour, je ne sais pas, soit les intellectuels, ou les professionnels, ou n'importe quoi, quelle est la population mère? Est-ce que je vais mettre les avocats et les avoués? Parce que ça, c'est une lutte. Hein. Les lawyers, ils vont dire, ah ben oui, ça, moi je suis un avocat, mais ça, ça n'est pas un. Non, les professeurs, ils vont dire, non, pas les assistants. Les intellectuels vont dire, ah, mais c'est pas un intellectuel. Donc, ils vont lutter à propos de la décision. Donc, moi, mon premier problème, c'est de dire, bon, comment je vais construire un échantillon. Bon, après, bon, quand je pense à la population, après l'échantillonnage, c'est terriblement secondaire. Et ainsi de suite. Alors, ça, c'est très souvent le cas. Et moi, alors, pour faire des choses qui sont théoriquement correctes, souvent, je suis obligé de faire des choses qui sont imparfaites, empiriquement. Mais, qui ne sont pas imparfaites par ma faute, qui sont imparfaites parce qu'on ne peut pas faire mieux quand on veut construire comme ça. Bon. Vous comprenez? Alors moi j'ai un exemple là que je raconte en deux mots, c'est l'histoire des grandes écoles. Cette définition empiriste de la science, elle est très forte. Moi-même je l'ai intériorisée, hein, elle fait peur. Bon. Alors j'ai fait une enquête, bon, j'ai à peu près, je vais avoir 50 à 60 000 questionnaires, hein, donc, vous voyez, que j'ai pratiquement tous vus moi de ma main, hein, que j'ai regardé, que j'ai pas codé, mais enfin que j'ai regardé, j'ai préparé les codes, etc. Rien que ça, il n'y en a plus d'un qui aurait 4 galons d'empiriste. Hein. Bon, j'ai décidé les trucs, j'ai observé, j'ai préparé les enquêteurs, j'ai fait des réunions, etc. Eh bon. Et bien, je suis arrêté pendant près de 10 ans sans oser publier cette enquête, bon, parce que, bon, vous imaginez, sur le confessionnaire, il y a peut-être 40 à 50 écoles. Bon, d'abord, l'enquête n'est pas complètement synchronique. Elle s'est étalée sur plusieurs années. Bon. D'où le problème de comparativité. Attention, une année, c'est pas pareil, etc. Bon, alors j'ai des mesures de pratiques culturelles. Bon, combien de fois tu vas aller au théâtre, etc., depuis le début de l'année. Bon. On ne peut pas penser à tout. Bon, l'enquête, dans certains cas, s'est passée en juin, dans d'autres cas, elle s'est passée en avril, en mars. Etc. Alors, je pourrais cacher tout ça. Hein. Bon, mais moi, je le sais. Hein. Bon, alors, la période sur laquelle n'est pas. Bref, il y a des foulées. Dans certains cas, bon, mon échantillon, j'ai des taux de réponse de 80%. Bon, dans d'autres cas, ça tombe jusqu'à 40%, bon, ce qui est encore une très bonne. Bon, alors, je compare mes statistiques avec les statistiques de l'établissement. Et moi j'ai tendance à penser, et par exemple j'ai fait ça, j'ai fait des corrections mathématiques de tous mes échantillons par rapport aux chiffres donnés par les établissements. Bon, jusqu'au jour où je me suis dit, enfin, pourquoi les leurs sont-elles meilleures que les miennes? C'est tout simplement deux formes de stratégie. Par exemple, vis-à-vis du chef de l'établissement, si on est à l'ENA, on va élever son régime social. Vis-à-vis de l'enquête, on l'élèvera moins. Bon, donc, il va y avoir des biais spécifiques des différentes enquêtes. Je peux raconter à l'infini hein, le nombre de difficultés. Mais toutes les difficultés naissent de quoi? Du fait qu'au lieu de faire comme M. Bottomont, bon, qui a fait une enquête sur l'ENA dans une année, ou de faire comme tous les Américains, ils arrivent 3 par an, ils vont à la Polytechnique, ils voient tous les mêmes statistiques, ils refont tous la même étude longitudinale, des origines sociales des élèves de Polytechnique, depuis que Polytechnique existe jusqu'à nos jours. Bon, ils retrouvent toujours à peu près les mêmes résultats, etc. etc. Bon, aujourd'hui, ils ne se sont pas posés de problème, mais dans les deux cas, ça n'a aucun sens. Bon, c'est parfait, parfait encore. Enfin, apparemment impeccable, tout le monde trouve ça très bien, on cite en disant bon père, bon témoin, etc. Bon, ça n'a strictement aucun sens, parce que bon, pour comprendre ce qui se passe à l'ENA, il faut comprendre l'ensemble de l'espace. Bon. Et il vaut mieux connaître mal, parce qu'on ne peut pas le connaître bien. Ou alors il faudrait, bon, pour faire cette enquête, il y a des obstacles purement sociaux. Pour la faire tout à fait bien, il faudrait que je sois président de la République, que je donne l'ordre. Bon, à tous les chefs d'établissement, à la même heure, de faire passer la même enquête, etc. C'est là pour être possible. Pour raison sociale, ça n'existera pas. Donc, ce qui est imparfait est le produit d'un effort extraordinaire, bien supérieur en exigence empirique. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, ça, je pourrais donner 1000 exemples comme ça, enfin, bon, sur l'épiscopat, sur.
Je crois que les sociologues ont du mal à parler des symboles, des valeurs.
Oui.
Et votre théorie est
oui, il y a ça aussi. Il y a ça aussi.
Et ça, c'est la plus intéressante, mais ils se sentent plus saufs peut-être avec les statistiques qu'ils pensent que.
Oui, oui, mais j'ai dit, les symboles, ça peut donner lieu à des statistiques aussi. Il suffit de trouver les bons indicateurs, et puis avoir, je sais pas, la légion d'honneur, la décoration, c'est les symboles. Donc, moi, dans mes travaux, je code ça. Et bon, simplement, bon, ce que je fais, ayant à l'esprit l'importance des facteurs symboliques, bon, du pouvoir symbolique, tout ce qui est représentation, surtout représentation socialement reconnue, garantie par l'État, etc., bon, dans mes statistiques, je vais avoir des indicateurs systématiques de ces choses-là. Bon, les décorations, les titres scolaires, ben oui, tout ce qui existe. Dans la subjectivité des uns et des autres. Bon.
Mais il est difficile de qualifier une valeur d'un titre, par exemple, d'un accent.
Moi, je pense qu'on peut toujours trouver ça. Ça aussi, c'est une autre chose. Je pense que j'ai appris d'ailleurs en faisant de la technologie. Bon, qu'est-ce que vous avez de plus insaisissable qu'un système de représentation mythique? C'est très très insaisissable. C'est bien plus que les valeurs. Ça veut dire que c'est des systèmes de valeurs. Hein. Bon, le chaud, le froid, le sec, l'humide, etc. C'est quand même tout à fait. Bon. Or, en ethnologie, on arrive à l'étudier. Comment? Ben, on prend le plan d'une maison et on a une espèce de système symbolique objectivé, de façon complètement inconsciente, etc. Bon, on prend les itinéraires des gens dans le village, on a la vision de travail entre les sexes, la représentation de l'homme, la représentation de la femme. Bon, on a des niveaux linguistiques, des proverbes, des tons, etc. Bon, on peut toujours trouver. Simplement, moi je pense que souvent, d'abord la plupart des sociologues ont une vision très restreinte finalement de la rigueur scientifique. Et parce qu'avec de l'imagination scientifique, on peut toujours trouver des bons indicateurs, même des choses les plus évanescentes, les plus irréelles. Bon, ça, c'est, par exemple, je pense que s'il y a une chose, quand on dit que je ne suis pas empiriste, si les gens regardaient l'indicateur de la liste des indices que j'ai utilisé dans mon académicus, bon, et qu'il compare ça avec l'IPSEC. Ben ça, il y a vraiment la différence entre une imagination scientifique et un bureaucrate. Bon, hein. Après, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est la liste des trucs. Je me dis, ben, je veux étudier ça. Hein, je sais que, parce que en tant qu'indigène de la société académique, je sais que, je sais pas moi, telle chose est importante, telle valeur. Hein, bon, je ne vais pas dire avec ma subjectivité, c'est important. Donc je cherche un indicateur. Donc, ça va être le citation index, ça va être, par exemple, la présence dans le petit dictionnaire Larousse. Bon, ça, c'est un très joli indicateur. Quoi. Et ça veut dire, bon, c'est déterminé, etc. Bon, et là, j'ai déployé, si j'avais la liste, je peux vous montrer la joie que je pouvais avoir. Je dis, ah, ça, c'est malin. Ouais, c'est souvent, je vous mettrai au concours. Trouvez-moi un indicateur de ça. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup de gens qui trouveraient. Vous voyez, c'est ça le travail intellectuel, ça consiste à avoir des hypothèses bon, sur des choses importantes qui parfois sont très très efficientes, très agissantes, mais qui pourtant ne sont pas palpables. Alors, il y a le fait de réalisme très naïf, bon, ce que je ne vois pas, ce que je ne touche pas, ça n'existe pas. Alors, pas très souvent, c'est toujours comme ça. Bon, alors on dit, ça c'est théorique. Ben, non, le capital symbolique, bien sûr, c'est quelque chose de très très... Ah oui, alors en ce moment, il réduit, il dit, ça veut dire le prestige. Bon, si vous voulez, simplement, prestige, qu'est-ce que vous faites avec prestige, moi, le capital symbolique, voilà tout ce qui va sortir. Hein, c'est une forme de pouvoir, qui suppose la connaissance, qui suppose la reconnaissance, donc ça existe dans la tête des gens, mais pour que ça existe dans la tête des gens, il faut que la tête soit structurée d'une certaine façon. Comment elle est structurée? Elle est structurée par les structures mêmes qu'elle perçoit. Et c'est cet accord, vous savez, on peut développer. Mmh. Bon, alors c'est pas prestige. C'est prestige, c'est rien. Hein, c'est. Vous voyez, bon, et après, quand vous, bon, je vais trouver des indices subtils et indiscutables, objectifs, comme aussi objectifs acceptables, hein, du prestige défini comme capital symbolique, là, il faut. Et là, le métier ethnographique est très important. Mmh. Ça, les ethnologues savent regarder, c'est vraiment des choses importantes, ils savent prendre des photos, ils savent regarder. Moi, je sais pas, sur l'Algérie, j'ai fait 10 000 photos. Dites-moi un autre sociologue qui a fait des photos. Non, ils regardent. Ils regardent rien. Ils font des questionnaires, ils envoient les enquêteurs. Hein.
Oui, lorsqu'on parle de Bourdieu en Angleterre, tout le monde dit, ah oui, le capital culturel. Mais pour moi, je crois que même le capital social est même plus important. Oui. Je ne sais pas, il y a une différence entre la France et l'Angleterre, mais certainement en Angleterre, c'est pas... Je sais bien que les deux formes de capital, ils sont liés, mais ça serait intéressant quand même d'étudier quoi, il y a les êtres parrains, si vous voulez, oui. En Angleterre.
Oui, tout à fait. Vous avez des phénomènes de parrainage, ça existe
En Angleterre?
Oui. Ah, c'est intéressant.
Mais je crois que, comme les classes sociales, je crois qu'ils sont basés sur les principes différents. Parce que, naturellement, en Angleterre, nous avons encore un sentiment de noblesse.
C'est ça. C'est ça.
Mais en France, c'est plutôt un sentiment d'intellectuel, je ne sais pas, le statut de...
Oui, oui.
De polytechnicien, je ne sais pas quoi.
C'est ça.
Dis, quelqu'un c'est... qui est plus formé que chez nous. Chez nous, c'est l'accent, c'est les ancêtres, c'est certainement cette noblesse qui existe encore.
C'est ça. C'est ça. Ouais. Oui, en France, bon, cette noblesse existe, mais elle a été obligée de se reconvertir. C'est-à-dire que actuellement, les gens importants cumulent quoi, la noblesse scolaire vraiment, et la noblesse de licence. Et puis des voies pour les gens qui sont à la fois des nobles, plus ou moins anciens, qui ont tous les signes de la noblesse, l'accent, le maintien, etc. Donc les sports, les frères, etc. Plus les conséquences scolaires. Mais je pense que vous avez raison qu'en Angleterre, c'est encore plus fort à cause des privés de school, c'est tout ça, ce mécanisme de.
Et l'accent, la façon de parler. Et je crois aussi l'inflation des qualifications, c'est une chose très intéressante parce que pour l'homme moyen, c'est le moyen de se faire passer aux classes moyennes, si vous voulez.
C'est ça.
Mais ça crée beaucoup de, quoi, de. On est plus frustré, il y a des tensions sociales à cause des mythes qui existent dans le système scolaire chez nous actuellement parce qu'il n'y a plus de débouchés pour ces titres scolaires.
C'est ça, c'est la même chose. Que vous écrivez, on a absolument l'équivalent, une sorte de déception collective, quoi, pour une petite scolaire, ça, je pense.
Et ça montre quoi? le mythe d'égalité tout le monde.
Donc ça, je pense que c'est un phénomène très intéressant et qui est universel européen. C'est une sorte de désenchantement collectif de toute une génération quoi, qui a cru au système scolaire, au système scolaire, et qui finalement s'aperçoit que ce sont des valeurs, des titres dévalués.
Mais que, quand même, vous avez parlé très peu vous-même de quoi, la sociologie moraliste comme Durkheim, quoi, l'anomie, l'aliénation, c'est pas quelque chose qui fait partie de votre théorie, vous pensez?
Je ne pense pas beaucoup en ces termes parce que bon, je pense que ce sont des. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas tellement dans mon univers de pensée. L'anomie, au fond, non. Je m'en sers, je m'en suis servi récemment, mais dans un tout autre contexte pour dire que. Je crois même que ce n'est même pas le sens de Durkheim, pour dire que l'apparition d'un champ artistique développé, c'était l'institutionnalisation de l'anomie, c'est-à-dire des univers dans lesquels il n'y a plus de loi dominante, il n'y a plus de principe dominant, mais il y a simplement une lutte pour la domination légitime. Mais autrement, l'idée d'anomie au sens durkheimien, je trouve que ce n'est pas un très bon concept. C'est assez moral, c'est une façon pseudo-scientifique de résoudre le problème de la fondation scientifique d'une norme. C'est-à-dire c'est le passage de et à de l'être, de voir être, bon, un peu triché. Donc moi je me suis toujours ça. Et aliénation, je pense que c'est un peu pareil aussi. Je pense que ce sont des concepts émotionnels auxquels on essaie de donner une allure scientifique. Oui, je pense. Et je vois que la notion d'aliénation, par exemple, je ne vois pas tellement ce que ça apporte. Je
C'est
pense que
au dehors de la sociologie, vous pensez?
Oui, moi je pense que c'est. Enfin, en tout cas, moi, dans ma façon de penser, comment dire, sur des concepts que je connais, j'ai fait des cours sur l'un et sur l'autre, mais je ne vois pas ce que je peux en faire, quoi. Ce sont des concepts plutôt qui sont dans Karl Marx, c'est l'héritage et deux liens, pas bien repensé. Bon, et alors ça a été repris par toute une catégorie de philosophes pour faire un Marx un peu pathétique. Bon, sur ce point-là, je serais d'accord avec Althusser pour dire qu'est-ce que c'est que ces trucs. Voilà, moi j'ai pas grand-chose à en faire, quoi. Ceci dit, bon, par exemple, peut-être que j'ai décrit les choses analogues, quand j'ai décrit le déclassement, le phénomène collectif de déclassement, le désenchantement de toute une génération, etc. Bon, on pourrait dire c'est l'anomie. Je ne vois pas ce que ça apporterait. Donc, je pense que. Oui, en fait, ça tient lieu d'analyse de mécanismes.
Oui. Ça fait partie des valeurs, peut-être, qu'il y a des valeurs différentes, que les gens pensent que quoi, un titre donne une certaine valeur, mais il n'existe plus. Je crois que ça
Oui.
fait partie de votre théorie quand même. Il y a un décalage entre quoi, la croyance en valeur.
Oui, mais bon, moi je pense que, en fait, enfin, peut-être que je me trompe, hein, vous savez, en général, quand il y a un bon concept dans la tradition, bon, je le prends, hein, vous savez, je ne cherche pas à faire le concept pour être original, et il me semble que si ces concepts-là avaient exprimé quelque chose que j'avais à dire, quoi, bon, je les aurais pris, j'aurais dit à lui, bon, au contraire, je suis plutôt content quand je peux reprendre un concept traditionnel, et le refaire fonctionner, souvent en l'améliorant. Bon, c'est-à-dire, je ne prends pas la notion d'habitude, c'est un concept complètement mort, je le reprends, je l'enrichis, je le transforme, etc. Bon, là, si je ne l'ai pas fait, je pense que il me semble que c'est quelque chose de. C'est même des concepts dont je me méfierais, quoi. Et je pense qu'abandonner ce genre de mots, c'est pas plus mal pour avoir une. Enfin, voilà. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il me semble que autant l'un que l'autre, je le vois avec plutôt
Où est-ce que vous avez trouvé cette notion d'habitus? Parce que c'est c'est vraiment au centre de
Oui.
votre thèse. Oui.
Elle est partout et nulle part. J'ai un papier que je peux vous envoyer, que j'ai fait. C'était l'introduction du livre là, sur lequel je travaille, où je reprends au fond un peu la généalogie du concept d'habitus et du concept de champ. Bon, je veux dire, à la fois je l'ai trouvé, je ne l'ai pas trouvé. C'est-à-dire, la notion d'habitus, c'est tout le monde dit ça. Vous voyez, pratiquement, Aristote l'a employé, en fait, il a parlé d'exis, ça a été repris par la scolastique, ça se trouve. Chez Husserl, ça se trouve chez Hegel, ça ne l'est pas, mais enfin il y a la notion d'exis qui dit exactement la même chose, ou ethos qui dit la même chose, ça se trouve donc chez Husserl, je l'ai dit, ça se trouve chez Durkheim, ça se trouve chez Mauss, partout. Quoi. Donc c'est un mot tout à fait banal quoi, de la tradition philosophique, auquel la plupart des gens ne font dire presque rien. Bon, ça veut dire disposition, ça veut dire manière d'être.
Vous l'avez mis au centre
Oui,
de...
alors bon, moi ce que j'ai fait, c'est que en même temps, c'est ce que j'ai développé un peu dans cet article, c'est de dire que à la fois ce mot n'a pas grand sens dans la tradition philosophique, et en même temps, tous les gens qui l'emploient ont du sens. C'est un peu comme une ligne politique, si vous voulez. Même à ce niveau d'imprécision et de vague enfin, auquel les gens l'emploient, il y a, ça exprime toujours une certaine orientation. Bon. Par exemple, chez Hegel, c'est le plus net, quoi, employant des concepts que les philosophes anglo-saxons appellent ça des concepts dispositionnels, qui désignent des manières durables, permanentes d'être. Rail, voilà, encore quelqu'un, il n'y a pas le mot habitus, mais ça pourrait y être. Bon, rail, c'est typiquement, enfin, s'il y a un philosophe dont je pourrais me réclamer, ça pourrait être ça. Bon, hein. Chez Merleau-Ponty, c'est pareil, Merleau-Ponty n'a jamais employé le mot habitus, mais en fait, il manque le mot, hein, même alors au sens le plus sophistiqué que je peux donner. Donc, chez Hegel, par exemple, il opposera ethos à éthique, enfin, ou à Zittlichkeit d'un côté, et puis de l'autre, moralité. Bon, il fait cette opposition, c'est-à-dire une morale de type kantien, dans laquelle il y a des impératifs transcendants, irréductibles en quelque sorte à leur réalisation dans une pratique, et puis la moralité, les mœurs, au sens de l'entend Hegel, c'est-à-dire ce qu'il appelle la morale réalisée, c'est-à-dire la morale qui est devenue disposition permanente. Bon, dans ce cas-là, ces concepts dispositionnels apparaissent toujours chez des gens qui veulent exprimer quelque chose de profond, d'un peu inconscient, durable, lié au corps, pas lié à la conscience. C'est l'opposition entre la tradition subjectiviste, quoi, qui va. Le pôle opposé, ce serait Descartes, Kant, Husserl. Font la philosophie intellectualiste de la conscience du sujet comme conscience connaissante opposée à un objet. Voilà. Alors, vous avez ces deux traditions, c'est un peu simpliste de faire cette position, enfin, ça veut quand même dire quelque chose. Bon. Et par exemple, quand Mauss va prendre la notion d'habitus, c'est à propos de techniques du corps. Bon, et là, il y a cet exemple qui dit quand on a voulu en 1918 faire marcher des troupes anglaises avec une musique française, ou des troupes françaises avec une musique anglaise, ça ne marchait pas. Pourquoi? Parce que la musique était liée à une manière de tenir le corps. La démarche, la marche, pas la même, et c'est là qu'il y a encore le mot habitus. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui emploient ce mot, bon, c'est un peu comme une ligne politique. Hein. Vous savez, bon, tel truc, ça c'est plutôt de gauche, ça c'est plutôt de droite. Hein, ça, il y a comme ça des lignes philosophiques. Et les gens peuvent employer les notions d'habitude, même s'ils l'emploient mollement, sans y penser, comme j'aurais pu dire habitude, comme j'aurais pu dire. Mais bon, quand même, il y a un petit peu quelque chose. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin de nommer alors, quelque chose d'important, qui était, il y a le sujet, c'est pas un sujet, c'est pas une conscience, c'est quelque chose qui est socialement constitué, qui est. profondément corporel, c'est un rapport pratique au monde, etc. Bon, ben, la notion d'habitude est très bonne pour dire ça. Enfin, moi, je ne peux pas dire habitude parce qu'habitude, ça veut dire mécanique. Bref. Voilà. Et alors, ce mot, évidemment, à la fois, c'est un mot classique, mais je crois auquel je fais rendre tout son rendement, quoi. En gros, c'est ça. Alors, pour chant, ben, on peut dire la même chose. C'est pareil, c'est un mot qui a déjà été très employé en physique, par Lévin, bon, par en linguistique, etc. Mais bon, je crois dont les gens ne faisaient pas, ne tiraient pas parti, quoi.
Et le marché, ça fait partie d'une théorie économique.
Alors, bon, ça c'est plus compliqué. Le marché, c'est un cas particulier du chant. C'est-à-dire, moi je pense, alors ça aussi c'est une chose que souvent on dit à propos de ce que je fais, que bon, je fais du transfert de l'économie, ça c'est complètement faux. Bon, j'ai pu le faire un petit peu à travers Weber. C'est-à-dire que comme quand j'ai travaillé sur au fond, les premiers usages que j'ai fait de la notion de champ, je me servais de la notion de champ que j'avais construite à propos de Weber pour compenser Weber. Bon, et du même coup, ça me permettait de prendre une part du travail que Weber avait fait par transfert du modèle économique. Ça, je pense que le génie de Weber, hein, ça a été de transférer le modèle économique sur le terrain de l'économie des biens symboliques, en particulier de la religion. Bon, ce qui avait une fonction de rupture, bon, ça permettait de couper avec la naïveté impressionniste, etc. Et aussi une fonction de construction d'objets absolument formidable, la métaphore, etc. Mais alors, ce que je n'avais pas compris, j'ai compris peu à peu, c'est que la notion, les métaphores, les transferts weberiens de l'économie économique à l'économie de la religion, par exemple, l'économie religieuse, bon, étaient rendus possibles par le fait qu'en les deux cas, il y avait des champs. Et finalement, la théorie des champs, je crois, quelque chose qui englobe bon, la théorie économique, etc. Je pense qu'une théorie générale des champs ferait de la théorie économique un cas particulier. Mais évidemment, la théorie économique, pas comme elle est aujourd'hui. La théorie économique serait pensée tout à fait autrement, avec un agent économique tout à fait différent, des lois de fonctionnement de l'économie tout à fait différentes. Bon, par l'action d'offres et de demandes, ça est réel, mais ça a repensé complètement. Donc, ce que j'ai fait un peu de la distinction, disant, bon, il y a une offre qui a une structure, il y a une demande qui a une structure, il y a un rapport offre-demande qui est un rapport entre structure, etc. Bon, autrement dit, donc, les concepts économiques. Donc, il n'y a pas, c'est pas la logique de l'emprunt. Ça, c'est une chose qui m'énerve beaucoup quand on me dit, mais oui, alors vous avez emprunté, etc. Bon, c'est pas vrai. Je pense que c'est très profondément repensé. Bon, évidemment, quand je peux rencontrer un concept économique, je suis trop content. Hein, quand il y a du travail déjà fait et que je peux le repenser, l'annexer à ma manière de penser, je suis très content, je ne peux pas me priver de ça. Mais au fond, je n'ai jamais procédé comme ça en disant, oui, il y a le marché, puis il y a le marché, l'offre, puis il y a l'offre, puis il y a le monde. Alors ça, il me semble, ça devrait se voir dans ma façon de travailler, que c'est pas fait comme ça, quoi.
On parle beaucoup à ce moment quoi, de l'économie libérale,
Ouais.
du marché et tout ça. Et je crois que c'est pour ça que les gens vous critiquent.
Ouais.
Peut-être parce que ça leur semble que quoi, vous empruntez des notions économiques.
Oui, mais ça, vous savez, je vais vous dire, il y a malheureusement une des lois de la discussion scientifique, c'est que, enfin, comment dire, les gens s'autorisent enfin, à critiquer des choses sans demander s'ils les comprennent. Bon, alors moi je pense que, pour des raisons historiques, etc., très souvent, c'est encore plus vrai aux États-Unis. C'est vrai aussi en Angleterre, parce qu'il y a des préjugés comme ça, nationaux. Aux États-Unis, c'est encore plus fort, c'est une puissance impériale, ils se sentent le centre du monde, tout ce qui est grand est américain, rien de ce qui est américain n'est grand. Enfin, c'est vrai, il y a une espèce de trucs tout à fait extraordinaires, y compris des gens que j'aime beaucoup, qui sont plutôt gauchistes, en opposition avec tout ce qu'il y a d'insupportable dans leur pays. Etc. Donc, ont toujours pour premier réflexe de dire, mais nous avons déjà ça. Ça existe déjà, ça a déjà été dit, un Américain l'a déjà dit, un ami médecin m'a dit qu'il avait vu dans un article que la cirrhose du foie, Macintosh 1923. Alors, c'était des choses qui ont été écrites par l'AENEC en France 1845. Mais bon, autrement dit, il y a une tendance comme ça annexionniste qui fait que, moi, très souvent, des gens qui, en faisant beaucoup d'efforts, auraient du mal à comprendre ce que je fais, s'autorisent à dire, mais qu'est-ce que c'est, vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors peut-être dans 50 ans, comme maintenant avec Weber, maintenant ils ont tendance à tout ce qui vient d'Europe, de Vienne, des années 1880, et ils se mettent à genoux et ils cultivent. Bon, de même, maintenant il y a une espèce de snobisme chez les gens de gauche. On va chercher Vygotsky, Bartine, etc. Bon, les formalistes russes, etc. C'est juste, non? Bon, alors moi je pense qu'un des problèmes qui se pose à propos de ce que je fais, c'est que bon, les gens, soit qu'ils soient dans l'establishment officiel, donc quel cas ils ont cette vision un peu ça intégriste, tout ce qui n'est pas formalisé, formalisable, ça n'existe pas. Bon, mais d'autre part, soit qu'ils soient dans la position critique, marxiste, etc. Bon, dans les deux cas, le genre de choses que je fais déconcerte beaucoup. Alors,
C'est le cas avec la sociologie,
oui,
on dit.
oui, mais je pense que après ce que je fais, je ne sais pas comment dire, parce que ça défie quand même beaucoup d'habitudes de pensée, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, je disais aux Américains, je dis, vous habitués au fast reading, c'est comme le fast food, vous lisez comme ça à toute vitesse, bon, faites attention à ce que vous lisez. C'est vrai que parfois je passe 2 jours à écrire une phrase, je ne fais pas comme vous, comme ça, avec des footnotes super clés. Bon, quand il parle, par exemple, c'est incroyable, mais quand je vois des citer mes livres, je ne reconnais jamais ce qu'on me prête. C'est quand même extraordinaire. Vous voyez, on me fait dire n'importe quoi, mais enfin, si on faisait la liste, enfin, je ne prends que mon cas, mais bon, c'est vrai dans beaucoup d'autres cas, hein, des livres que je connais très très bien, ce que les gens en disent, bon, ne correspond en rien. Cas dans les livres correspondants. Alors ça fait partie bon, de toute une civilisation de la lecture rapide. Ça repose sur la liberté un peu impériale, ça repose sur aussi le système scolaire anglo-saxon. J'en enseigne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il faut faire des cours, et dans les cours, c'est pas mal de faire défiler des théories. First term, on fait des fonctionnalistes. Alors, que ça veut dire fonctionnaliste, je n'ai jamais compris. Le concept de fonctionnalisme tel que c'est employé dans la région anglo-saxonne, c'est extraordinaire. Bon, ensuite, deuxième partie, on fait les structuralistes, troisième partie, on fait les constructivistes, et on met tout ça pêle-mêle en vrac, etc., avec des tas de trucs, Argyle 1936. C'est ça, j'ai vu des tas de cours comme ça, et ça c'est terrible. Alors, à la fois, du point de vue par rapport aux traditions européennes, françaises, où les gens ne lisent pas assez, n'ont pas lu sur fondamental, etc. On peut se dire, bon, moi je me dis c'est très bien, parce que quand même quand je dis légitimité, les gens savent que je pense à Weber. Alors qu'en France, je ne sais pas quoi ils pensent. Mais en même temps, cette espèce de culture de trend report, de reader, de fast reading et de fast teaching, c'est une catastrophe, parce que ça tue la pensée lente. Moi, je ne sais pas sur Weber, j'ai passé peut-être. Là, j'ai passé des mois et des mois à lire ligne à ligne, sur Husserl, n'en parlons pas. Bon, pas comment dire, il y a une espèce d'imprégnation. J'aurais jamais l'idée de mettre Weber 1913, entre parenthèses. Ça peut pas. Cette manière de faire les références à quelque chose de terrible. Quand je fais une référence, je dis comme l'a montré Weber, je dis ce que j'ai compris. C'était une manière de donner à vérifier ce que j'ai. Bon, voilà. Alors tout ça c'est un truc très important, et c'est pour ça qu'une part des critiques qu'on fait de moi m'énerve, parce qu'elles n'ont ni queue ni tête. Voilà. Bon, schématique, alors on dit marché, marché ça veut dire marginalisme, donc c'est de droite. Ou bien on dira, bon il y a capital, donc ça veut dire Marx, donc c'est marxiste. Bon, ou bien on dira, il dit, pas quoi, norme, donc c'est durkheimien. Bon, alors, moi je peux vous dire, la liste de toutes les choses qu'on dit sur moi, je suis durkheimien. Pour les marxistes, je suis durkheimien. Pour les durkheimiens, je suis weberien. Pour les weberiens, je suis marxiste. Bon, c'est intéressant. Mais, hein, moi, je pense que personne.
Tu luttes des classements.
Oui, exactement. Exactement. Personne ne se dit, mais s'il était tout ça à la fois. Bon, et si le propre de la science était de cumuler, c'est-à-dire au lieu d'avoir des antagonismes rituels comme ça, bon, moi, je pense que c'est tout à fait possible. Que je crois que, parce que justement, j'ai vu les gens. pas pour comprendre, pas pour critiquer, hein, parce que qu'est-ce que j'ai à foutre, c'est hein, bah, je peux vous dire, je crois que, bon, évidemment, c'est très prétentieux ce que je dis, parce que dès que j'ouvre du vélo ou du calme, je me sens petit, hein, comme devrait se sentir tout ce qui bien constitué, hein, bon, parce que vraiment, ce n'était pas des petits bonhommes. Bon, cela dit, je crois que à force de les fréquenter, de les lire, de les connaître, etc., d'essayer de voir, ce sont des gens en plus qui, au moins, bon, Marx, c'est pas le cas, mais Durkheim et Weber se sont pensés les uns par rapport aux autres. Donc, on peut arriver à voir bon, ce que chacun a vu des autres, ce qu'ils n'ont pas vu. Donc, on peut arriver à intégrer ces gens. Bon. Et je pense que dans beaucoup de cas, on peut dire bon, ce que j'ai fait, c'est Marx plus Weber. Ça, c'est. Enfin, ça s'est pas passé comme ça dans ma tête. Hein. Ça, c'est Durkheim, Mauss plus Marx. Et de manière qui n'est pas éclectique. Parce qu'après, si on prend les choses sérieusement, on doit se dire, tiens, ben oui, c'est vrai, c'est marrant, je n'aurais pas cru. Moi, il me semble, je dirais du Bourdieu, ça, c'est marrant, c'est joli, ça. Encore une fois, moi, je lis des auteurs comme ça. Moi, je ne lis pas pour me faire plaisir, pour dire quel con ce type-là. Parce que moi, je préfère jouer au tennis ou faire du footing. Hein. Non. Quand je dis, moi, j'ai un peu de plaisir esthétique. Enfin, je dis, ben, j'ai dit, au moins, extraordinaire. Marx, c'est bon. Souvent, ça me fatigue, ça m'énerve. Mais en même temps, bon, j'ai moi aussi d'absolument formidable. Marx, je ne sais pas comment dire, Marx est tellement consubstantiel à un certain mode de pensée que c'est, bon, c'est la sociologie, quoi, de certaine façon. Ce qui est vraiment bien dans Marx, c'est tellement fondamental qu'on vit avec. Quoi, donc, on a moins ça. Mais Weber, bon, c'est la première fois que j'ai vraiment compris. Le monopole de la manipulation légitime des biens de salut, on dit quand même, ça c'est extraordinaire. On est en fonction d'avoir gagné 10 ans, 20 ans de lucidité. C'est ça. C'est ça que je pense, c'est que souvent, il y a les gens ne peuvent respecter qu'à titre posthume. C'est triste. Vous voyez ce que je veux dire, bon, il faut pour que. Ils acceptent bon, de lire les gens comme ils doivent être lus. Il faut que les gens soient morts et enterrés, ça devient l'objet d'un culte, c'est très bizarre.
Oui, c'est curieux parce que pour l'homme moyen, par exemple en Angleterre, si on dit quelqu'un est marxiste, il a horreur. Qui a lu Marx en Angleterre, sauf les sociologues. Voilà, c'est un cas où quelqu'un a une certaine valeur négative.
C'est
pareil parmi les sociologues des fois.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est le but de classement, c'est tout à fait ça, c'est labelisation.
Une chose que je voulais vous demander, lorsque vous parlez des stratégies, vous parlez, c'est, je crois, qu'elles sont ni conscientes ni calculées. Ça m'étonnait un petit peu parce que c'est vrai, mais il y a toute une hiérarchisation entre ce qui est conscient et inconscient.
Oui, alors, si vous voulez, bon, là c'est très compliqué, mais je pense qu'il y a beaucoup de. Enfin, il faudrait dire. Il faudrait nuancer, spécifier, etc. Je pense que beaucoup de stratégies ne sont ni conscientes ni calculées. Beaucoup
automatiques.
Oui, c'est ça, automatique. Beaucoup de bonnes stratégies. Enfin, l'exemple, je prends toujours l'exemple du sport. Bon. De se placer au bon endroit donc pour recevoir la balle. Donc, ça, c'est une stratégie, c'est une action orientée dans une séquence complexe d'actions, d'interactions, etc. Bon. Et ça, je pense que c'est pas calculé. Bon. En tout cas, il n'y a pas de projet conscient, il n'y a pas de position consciente d'une fin, etc. Bon. Alors, cela dit, je pense que on fait une opposition entre conscient et inconscient qui est assez artificielle. Quoi. Je pense qu'il y a toujours dans les choses les plus inconscientes une petite part de contrôle. Bon, ça, oui, une espèce de vigilance, qui est. Alors bon, ça je ne sais pas comment dire. Il faudrait faire une espèce de phénoménologie très subtile des différentes formes de rapport à la pratique. Ça varie beaucoup, mais ce que je voulais dire, c'était en réaction, au fond, avec stratégie, je voulais réagir contre les gens qui parlaient en termes de règles, quoi, comme les Strauss, en termes de règles, de parenté, etc. Bon, donc ça a une stratégie avec l'idée de quelque chose d'orienté, etc. Bon, alors en même temps, je ne veux pas que ça devienne stratégie calculée, rationnelle, style décision. Donc, pour ça, je dis, attention, ce n'est pas l'obéissance à une règle, à un modèle, mais ce n'est pas pour autant quelque chose de conscient et calculé. D'où le fait que j'ai insisté sur le fait que c'était inconscient.
Tout est en jeu.
Oui, mais je pense, oui, qu'effectivement, bon, par exemple, je sais pas, quand un chef d'orchestre dirige, bon, à la fois il est constamment conscient, mais en même temps il est probable que 98% de ce qu'il fait est complètement ça. Il entend le basson, enfin, si, ça va très très vite, quoi. C'est ça que je veux dire.
Et surtout avec la langue, je crois.
Oui, bien sûr.
Et quand vous êtes vous intéressé à la langue
Objet social,
c'est ça.
bah, toujours en fait, parce que par exemple, là, les travaux sur le bilinguisme, j'avais commencé en Algérie, c'est un des premiers trucs que j'ai fait en Algérie. J'avais commencé à faire des observations d'enregistrement à l'occasion des questionnaires sur le changement de langue. J'avais beaucoup lu à l'époque, et moi je m'étais beaucoup servi de Weinreich, qui était un. Vous savez qui c'est? C'est un élève de Martinet, qui a été un peu. C'est le chaînon missing link entre Martinet, Saussure et Labeauf. Bon, je crois qu'il a été le professeur de Labeauf. Et je crois qu'il a fait un bouquin qui s'appelle Language is in Contact, quelque chose comme ça. Bon, alors il faisait une théorie internaliste, mais qui faisait une petite place aux facteurs sociaux des contacts linguistiques. Alors, moi, ça m'intéressait beaucoup, parce que c'était une manière de. D'abord, il y avait des schémas théoriques qui m'intéressaient, et puis une manière de saisir, c'était un indicateur intéressant des contacts culturels. Alors donc je m'étais intéressé beaucoup à ça, je me demandais mais pourquoi les gens changent de langue selon le sujet, selon la question, etc. Bon. Mais là, bon, je n'étais pas assez bon, comment dire, il aurait fallu être un extraordinaire linguiste, arabisant, etc. Donc pas assez fort bon, pour pouvoir suivre complètement la dimension linguistique. Bon. Alors après j'ai transféré ça, j'ai fait des observations systématiques, mais que j'ai perdues. J'ai fait dans le village là où j'ai travaillé, en Béarn, où il y a une situation de bilinguisme, les gens, la première langue est béarnais, et puis ils parlent français. J'ai étudié systématiquement en situation, ça, dans les magasins, dans la rue, bon, j'observais la langue que les gens parlaient, et je notais chaque fois les caractéristiques sociales de l'émetteur et du récepteur, bon, pour essayer de voir des régularités. Alors j'étais homme, je parle ouvrier, habite des villages, femme, homme du village, ça montait 4 sont des villages et tout. Et je voyais quelle langue ça donnait. Bon, alors, vous voyez, je comptais faire une analyse statistique de ça et j'ai perdu mes observations. J'avais pas mal, je devais avoir à peu près 150 interactions. Comme ça. Bon, alors ça, je me suis toujours beaucoup intéressé à ça. Et puis, après, bon, après, je pense qu'une des raisons qui m'a amené à écrire là-dessus, c'était en partie pour en finir avec la domination des structuralistes, espèce de sémiologisme, qui était très puissant dans les années 60, moi, qui m'étant d'ailleurs sévi aux États-Unis sous le nom d'analyse de discours. C'est un peu la même chose, avec les mêmes méthodologies, etc. Bon, cette espèce de sémiologie, oui, en fait, qui, comme toujours, alors, les anglo-saxons, ça devient tout de suite, je crois, très empiriste, parce qu'ils. Tape record, bon, dans les enregistres, je crois que c'est la vraie objectivité. Bon, et puis finalement, c'est aussi farfelu, je pense, que ce que faisaient les sémiologues français. Ouais, bon, non, je suis méchant parce qu'en fait, je pense que c'est beaucoup mieux ce que font les Américains et les Anglais. C'est quand même beaucoup mieux parce que d'abord, ils n'excluent pas les variables sociales de l'analyse, ils acceptent d'analyser sociologiquement. Et puis, bon, cela dit, malgré tout, ils ont tendance à fétichiser, c'est-à-dire à croire que parce qu'ils ont enregistré bon, 2 heures de conversation entre un médecin et une infirmière, ils ont toute la structure sociale. Bon, c'est moins prétentieux que les Français, ils sont très prétentieux, enflés de théories, etc. Mais oui, enfin quand même, le biais fondamental qui est de prendre le discours comme alpha et oméga, comme autosuffisant, existe. Et même alors les plus intelligents, disons, comme Sicourez, etc., savent bien que dans le discours, ils vont retrouver des structures sociales, etc., mais ils ont tendance à les chercher dans le discours. Alors que moi, je dirais tout de suite, d'accord, mais bon, ce discours est dans un espace de discours, Donc la structure, il faut la retrouver au niveau de l'espace du cours. Enfin, je ferai ça tout à fait différemment, quoi.
Oui, et dans la nature de la langue même, vous n'avez pas des adjectifs antagonistes qui
Oui,
existent,
oui, oui.
qui est une expression des luttes des classes.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire que même dans la nature de la langue, il y a une expression de lutte des classes?
Oui, moi ça c'est quelque chose que je pensais, oui.
Ou c'est employé dans un moyen d'être une expression de lutte des classes?
Moi je crois quand même qu'il y a des usages dominants, quoi. C'est-à-dire que par exemple l'usage que recense le dictionnaire, bon, c'est quand même l'usage dominant, et l'usage dominant est socialement marqué.
Mais oui, mais
Si
quand
vous
vous
avez, je sais pas,
parlez entre grand, petit,
oui.
femme,
Oui, ben
grand.
oui, mais c'est marqué. Quand vous dites lourd, léger, bon, lourd c'est bas, léger c'est haut, quoi. Lourd c'est populaire, c'est parler lourd, ça roule.
Alors, il y a des homologues entre les structures sociales et la
Oui,
langue.
moi je pense que enfin bon, il y a des oppositions comme ça qui sont relativement, qui sont, je crois, universelles, du type haut, bas, etc. Et puis elles sont connotées socialement, et chaque univers social y accroche des significations historiques. Dans une société divisée en classes, où l'opposition entre le haut et le bas est une opposition fondamentale de l'ordre social, bon, à cette opposition ou à ses équivalents, on va accrocher des tas de significations qui sont chargées socialement. Ça, moi j'ai fait ça, je ne l'ai pas publié, parce que, bon, en fait, je sais pas, au fond, souvent, je n'ose pas publier des choses comme ça, parce que je me dis, est-ce que c'est rigoureux, est-ce que ça n'est pas. J'ai pris tous les adjectifs comme ça, et dans le gros Robert, et je voyais, on met synonyme, antonyme, je voyais à quoi ça renvoyait, etc. Et je les diagrammes, les adjectifs.
Ça
Un,
serait intéressant,
une,
je crois, ça.
oui, mais ça, j'ai jamais osé le publier, parce que comment prendre ça rigoureux? C'est ça le problème. Très souvent, vous savez, bon, bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup de choses faussement rigoureuses qui ne valent pas mieux que ça. Bon. Mais si je le publie tout simplement comme ça, on me dira, mais qu'est-ce que c'est? Bon.
Et lorsque vous dites que c'est une expression de manliness, vous connaissez
Oui.
l'expression, ça m'intéresse beaucoup parce que quoi, une attitude à la langue, c'est vraiment une attitude de classe, je crois.
Oui, moi je pense à ça, la Boffe l'a montré, ça, hein, que le rapport à la langue est très enraciné dans les idées d'égalité, etc. Ça, je pense que c'est vrai. Je pense que.
Mise à la réalité, vous avez parlé de
Oui,
la mise à la réalité.
oui, oui. Oui, alors là, j'ai fait, dernièrement, j'ai fait tout un. Enfin, deux séances là, de mon cours du collège sur Virginia Woolf, To the Lighthouse, là. Où il y a toute une analyse que je trouve extraordinaire des rapports entre les sexes, bon, à travers le langage, à travers justement cette idée de manliness, tout ça. Enfin, il y a des choses tout à fait étonnantes sur des oppositions sociales qui sont en même temps des oppositions biologiques, socialement constituées, quoi. Et ça, il y a des choses que je trouve très extraordinaires. Un peu
Oui, je
fatigué.
crois que
Non,
ça
je
fait
suis un petit
presque
peu
1 heure
fatigué,
et
ça va.
demie.
Non, mais je suis un peu, ça va, il faut être indulgent parce que j'étais déjà très fatigué, j'ai eu une migraine, et là je commence à être fatigué, je vous dis des choses un petit peu confuses, mais bon, il faut. Non, c'est vrai, j'en ai conscience, je suis un petit peu. Je ne suis pas très clair. Mais dites-moi si vous avez encore deux, trois trucs que vous paraissent importants.
Je crois que c'est presque. On a traité presque plus, je crois, plus ou moins. J'avais simplement quelques petites questions d'intérêt.
Des petits trucs que je peux répondre, auxquels je peux répondre brièvement. Allô?
Le centre de sociologie
Oui.
européen, c'est vous qui a créé le centre?
Oui, c'est une histoire compliquée. C'est-à-dire que à l'origine, c'était moi, je suis rentré à Algérie. Grâce à Aaron, d'ailleurs, qui m'a fait rentrer parce que je voulais rentrer d'urgence, il y avait la menace du putsch, du colonel, donc je lui avais dit que j'avais besoin de rentrer parce que ça devenait dangereux pour moi, et il m'a donc pris comme assistant, et il avait déjà un centre, s'appelait comme ça, Centre de sociologie européenne, Centre européen de sociologie, s'appelait, et qu'il venait de fonder à l'école des hautes études. Bon. Et au bout d'un certain temps, bon, comme lui-même ne faisait pas du tout de recherche empirique, il n'avait aucune idée, quoi, il avait reçu de l'argent de la Fondation Ford, etc. Et il n'avait pas idée comment faire de la recherche. Il m'a demandé si je voulais m'en occuper pour faire fonctionner le centre. commencé comme ça, à faire fonctionner, mais peu à peu, j'ai fait venir enfin, mes étudiants, bon, des gens comme Botanski, comme qu'est-ce qu'il y avait d'autre, au début de l'agneau, Caradi venait un peu après, mais vraiment, c'était des gens qui étaient mes étudiants quand j'étais assistant. Bon, puis il y avait des gens qui après sont venus peu à peu de différents côtés, c'est comme ça que c'est parti. Et puis peu à peu, de fait, quoi, ce centre est devenu le centre des gens qui travaillaient avec moi. Et voilà, alors après, ça a continué comme ça jusqu'à 68, puis en 68, on s'est séparés. On a fait deux centres différents.
Et les actes de la recherche, c'était quelle année?
Ça a dû commencer en 75. Et oui, ça c'était, moi j'ai beaucoup hésité, c'était beaucoup plus, bon, des gens autour de moi étaient poussés, c'est Yvette Delceau, Saint-Martin, Champagne, Botanski, bon, des gens qui étaient avec moi à l'époque, qui ont beaucoup poussé, qui disaient on va continuer, on a beaucoup à publier, à la rue française les délais sont très longs, puis on avait l'anglais avec n'importe qui, etc. Bon, moi j'hésitais beaucoup parce que je savais que ça serait beaucoup de travail.
Mais vous êtes satisfait avec...
Bah, c'est compliqué, c'est une charge terrible, c'est une énorme charge, c'est beaucoup de travail, et puis on a commencé en période de crise, c'est-à-dire c'était l'époque où les revues disparaissaient plutôt. C'était un moment où les grandes librairies commençaient à renoncer à s'abonner, donc bon, ça a été un peu dur. Quoi. Et puis c'est quand même beaucoup de travail. Surtout la revue telle qu'elle est faite, avec toutes ces illustrations, tout ça, ouais. Ça me demande beaucoup, beaucoup. Alors maintenant, moins, parce que il y a des gens qui s'en occupent très bien, il y a toujours eu des gens qui s'en occupent très bien, hein, mais bon, malgré tout, quoi, les titres, les sous-titres, les titres du numéro, etc., c'est plus pratiquement, enfin, toujours moins, quoi, les titres sur la couverture, pas la photographie de la couverture, les mises en page, etc., donc, pratiquement, je m'occupe de tout dans le détail, quoi, je relis tous les textes, c'est beaucoup, beaucoup de travail.
Oui. Et vous et votre équipe, vous étiez beaucoup touché par les événements de 68 en tant que sociologue?
Oui, c'est compliqué. Oui, on a été, oui, on a participé différemment. On a participé assez fortement. Oui. Enfin, de façon à la fois sympathique et un petit peu distante. Quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, on était tout à fait pour. Moi, je suis allé parler dans toutes les phases, etc. Et en même temps, on voyait bien que c'était un peu ridicule. Quoi.
Au cœur, vous pensiez que c'était ridicule.
Un petit peu, quoi. Un petit peu.
C'était la fête plutôt.
Voilà. Oui, c'est ça. Oui, puis une fête qui n'était pas toujours très, très, très jolie, quoi. Bon, c'était souvent un petit peu hargneux, un peu. Comme la révolution culturelle, ça ressemble beaucoup à la révolution culturelle chinoise. Moi, j'ai vu l'Italie sur la révolution culturelle. Ça ressemble beaucoup, quoi. Des gens jeunes qui veulent emmerder pas très, très joli du tout. Enfin bon, ça je l'ai un peu dit dans Homo Academicus à travers les citations de Flaubert, parce que la description que Flaubert fait de 48, qui à mon avis s'applique tout à fait, c'est tout à fait ça. Alors c'était un peu ridicule, en même temps un peu inquiétant, il y avait des gens d'une quarantaine d'années, un peu ratés, qui se vengeaient comme ça, c'est des chamans.
C'était la vengeance.
Oui, c'était pas très, très joli.
Mais finalement, je voudrais simplement vous dire que vous avez parlé de la sociologie appliquée récemment.
Oui. Ah bon,
c'est possible. Oui. C'était dans un des entretiens avec les Allemands.
Oui.
Il vous a demandé quoi, vous interroger sur. Vous vous occupez actuellement des trucs d'enseignement, n'est-ce pas, ici?
Ah oui, c'est ça. Oui. Ah oui, sur les applications de la sociologie.
Oui.
Oui, alors ça c'est compliqué. J'ai été là récemment à Berlin avec invité par un syndicat qui s'appelle EKFA, c'est les initiales O, Tréma, K, V. C'est un syndicat des transports qui m'a demandé de venir discuter avec ils m'ont demandé de discuter avec eux sur les sur le rapport du Collège de France, l'avenir du système d'enseignement. Allô? Oui. Et ce que ce qui m'a fait plaisir, c'est que actuellement ce texte est discuté dans beaucoup de pays. Il a été traduit dans toutes les langues européennes. Et il est discuté Par exemple, il y a deux syndicats, le syndicat italien et la CFDT, qui ont décidé de prendre ce texte comme base pour une réunion des syndicats européens, où ils avaient discuté de l'éducation, etc. Donc c'est un texte qui fonctionne beaucoup, enfin, au Portugal, aux États-Unis, dans une partie en Amérique latine, etc. Voilà. Alors, ceci dit, ça pose toujours des problèmes. C'est sûr que dans le passage d'une analyse à des propositions, c'est vrai que ça m'a posé beaucoup de problèmes.
C'est pas le travail d'un sociologue, peut-être.
Oui et non, c'est compliqué. Je pense que dans certains cas, enfin bon, moi ce que je voulais voir, c'était comment essayer de donner le plus de force possible à un certain nombre d'idées. Bon, alors ça suppose des compromis, c'est-à-dire que il fallait, si j'avais fait un texte tout seul, c'est un texte qui serait présenté comme scientifique, mais qui n'aurait pas eu de force sociale. En essayant d'en faire un texte collectif signé par le Collège de France, non pas par les professeurs du Collège de France, mais par le Collège de France en totalité, bon, ça donnait une grande autorité symbolique collective. Bon. Et du même coup, bon, pour avoir ce pouvoir symbolique, il fallait le payer d'un certain nombre de concessions intellectuelles. Bon, jusqu'à un certain point, pas trop, pas au-delà d'un certain point. Et alors moi je voulais voir, comme ça, c'est une sorte d'expérience, quoi. Comment peut-on faire quand on cherche à donner de la force à des idées, quoi. Alors, il se trouve que ce texte n'a pas été repris par le gouvernement, il n'a rien fait. Donc pour, ceci, je pense, est un texte qui fonctionne beaucoup, qui est très discuté, l'impression que j'ai, c'est que ça valait la peine, quoi. C'est quelque chose qui peut faire de l'effet. C'est un texte qui fera de l'effet à long terme, qui n'aurait pas fait si ça avait été un texte écrit par moi. Donc, mais peut-être que je me trompe, parce que comme je me suis donné beaucoup de mal, que ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai envie de croire que c'était utile.
Peut-être c'est le but d'un sociologue de faire monter un petit peu les idées dans la société.
Moi, je pense que malheureusement, bon, il faudrait faire ça, ça prend beaucoup de temps, mais je crois que c'est une mission réelle, quoi, d'essayer en tout cas, comme vous dites, de monter les problèmes, de poser vraiment un niveau un peu plus complexe, un peu plus élevé que d'habitude. C'est vrai que les sociologues, bon, ne font pas ça, du coup, ils laissent le terrain aux économistes, aux économètres, qui savent beaucoup moins que les sociologues, et qui eux font semblant, font des recommandations, des formules, etc. Et moi je trouve que les sociologues ont tort. Bon, à ce titre-là, je trouve que c'est une expérimentation intéressante. Bon, alors il y a eu beaucoup comme ça de rapports sur l'éducation, etc. Celui-là, pour des raisons compliquées, l'autorité de France, le fait qu'il était collectif, le mode d'écriture, ça c'est important, c'était écrit un peu comme un rapport. Côté systématique, l'allure, disons, philosophique globale de la chose, etc. Bon, c'est un texte, je suis sûr, qui a fait de l'effet symbolique. Bon, alors, comment cet effet symbolique va-t-il se transformer en effet politique, je n'en sais rien. Mais moi, mon hypothèse, c'est que ça sera une espèce de référence, quoi. Quand on discutera d'éducation, les gens se référeront à ça, et ça devrait empêcher enfin, rendre plus difficile la simplification. Voilà. Et bon, je crois que les sociologues, finalement, parce qu'il y a toujours l'alternative, ou bien on fait du réformisme durkheimien, comme ça on fait l'expert, ou bien on fait de la critique. En fait, là, c'était quelque chose qui était mis à niveau. C'est-à-dire, c'était un texte très critique. Je pense que c'est un texte sur l'éducation, bon, rude, vraiment très très critique. Il y a des choses extrêmement violentes sur les effets de consécration, etc. Toutes les bases du texte sont très très critiques. Je peux montrer tout ce que j'ai dit de plus critique sur l'éducation et derrière le texte. Et en même temps, à partir de ces choses critiques, au lieu de faire un espèce de minimalisme, de dire, ah, on se commence à lui reprocher. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de ces choses très critiques, on dit, bon, dans les limites de ce que le système scolaire peut faire, ça ne peut pas faire grand-chose, voilà ce qu'on peut faire. Alors évidemment, ça concerne, on peut dire, mais c'est ce que m'ont dit les Allemands, mais enfin, quoi, finalement, vous pensez que c'est tout ce qu'on peut faire. Non, j'ai dit, c'est seulement, il y a une chose très importante, c'est que premièrement, c'est un texte qui dit dans les limites du système d'éducation, vous ne pouvez faire que ça, ce qui en soi déjà est très important, parce que les gens qui vous disent que vous pouvez faire plus que vous ne pouvez faire vous mentent, et en fait c'est pour faire des choses inavouables. Hein. Ils vous disent on va démocratiser, alors qu'on ne peut pas en moins de 3 ou 4 générations. C'est en fait qu'ils veulent servir aux intérêts catégoriels d'un corps de professeurs contre les autres, etc. Bon. Donc en disant voilà ce qu'on ne peut pas faire, c'est déjà une contribution très importante. Bon. Et deuxièmement, en disant dans ces limites, voilà tout ce qu'on peut faire, bon, c'est quelque chose de très réel. Bon, alors ceci dit, si vous voulez faire la révolution, bon, c'est tout possible. Simplement, bon, voilà.
Je crois que chez nous, la sociologie est un peu démodée maintenant. Je ne sais pas qui on peut parler des modes, des disciplines comme ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un conflit entre la sociologie et la politique pendant les années 70. Et maintenant, si on dit qu'on est sociologue, on est trop critique peut-être. Je ne sais pas si pareil en France.
Oui. Moi je pense que enfin bon, je pense que les sociologues n'ont pas une vision réaliste de leur... Moi je pense qu'une des fonctions de ce rapport, c'était de donner une sorte de respectabilité scientifique et politique à la sociologie, et par là de lui donner du pouvoir. Alors c'est pas du tout c'est ça que les sociologues ne savent pas faire, comme, ils ne savent pas distinguer ce qui est stratégique imposé par les nécessités du moment de ce qui est investissement personnel. Il croit qu'en disant ça, c'est le sociologue qui investit, qui veut lui-même être reconnu, etc. Moi, je m'en fous complètement. Mais je pense que pour donner de la force aux idées que le sociologue découvre, bon, il faut donner une certaine respectabilité à la sociologie. Et parmi les formes de respectabilité, il y a la respectabilité scientifique. Et le fait que ce soit un rapport du Collège de France où il y a tous les plus grands savants français, etc., bon, ça donnait à ce rapport une force considérable puisque la science sociologique était ratifiée par les sciences les plus avancées, bon, par un collège de savants, bon, et bon, qui sont considérés comme les plus grands, chacun dans leur domaine, voilà. Et tout ça, je pense que c'était dans l'intérêt collectif de la sociologie. Mais je pense que très souvent les sociologues ne savent pas faire ça. Au fond, ils n'ont pas une réflexion politique réaliste, c'est-à-dire bon, on parle toujours de réalisme scientifique, c'est dans Marx, bon. Mais ça c'est des choses que le réalisme scientifique devrait enseigner. Bon, nous sommes étudiants, nous faisons une égalité, est-ce que nous voulons ou non qu'elle devienne agissante, bon, pour qu'elle devienne agissante, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est le problème, c'est la même chose pour le rapport aux journalistes, est-ce que, comment utiliser les journalistes, on va être utilisé par eux, c'est des grands problèmes, bon, que les intellectuels ne se posent pas. Et en quoi ils vont en ordre dispersé vis-à-vis des journalistes, ils font la cour aux journalistes, ils sont d'une bassesse extrême, et même qui vous diront comment c'est de la corruption, moi je peux vous dire, alors en tout cas en France, je n'ai pas l'exemple en Angleterre, mais je passerai 8 jours, je vous en dirai autant. Ils ont des gens qui vous diront comment ces gens n'ont plus aucune intégrité, etc. etc. Bon, moi j'ai un copain journaliste, je lui dis écoute, tu téléphones à un tel, on va rigoler, on me dit bah il a de la vente pour qu'on écrive 3 lignes sur lui dans Le Monde, dans l'Observateur ou dans le Figaro. Bon. Oui. Bon, alors que moi, par exemple, qui, ça c'est vrai, ça c'est vérifié, qui bon, ferait des négociations dans certains cas, par exemple, ce rapport du Collège de France a eu la première page de tous les journaux français sauf le Figaro. Bon, ça c'était un objectif que je m'étais donné. Il faut qu'on ait la première page, ce qui n'est pas rien. Vous savez, bon, là, dernièrement, des collègues, bon, j'ai signé, j'ai accepté, bon, ils ont dit on va faire une conférence de presse, etc., etc., pour protester contre les réductions de crédit, M. Chirac, je dis, bon, moi je suis solidaire. Mais vous avez fait une conférence de presse, il y aura un journaliste du Monde. Ça ne vaut pas le coup, d'ailleurs, je ne l'ai même pas marqué sur mon agenda, je ne suis pas venu. Bon, j'ai signé. Évidemment, hier, j'ai dit, j'avais la dernière page du Monde, un petit truc, etc. Alors que c'était les mêmes. Hein, c'était mes copains qui ont travaillé au rapport du Collège de France. Simplement, il n'y avait pas de stratégie. Alors qu'avec le rapport du Collège de France, on a eu la première page, avec des titres grands comme ça. Bon, voilà, alors ça, là, dans ce cas-là, ce n'est pas du tout un truc personnel. Hein. Rationnellement, bon, je prends la peine de faire un rapport de 30 pages, etc. Bon, on va défendre. Hein. Bon, mais il faut que ça paye, il faut que ça se voit. Bon, et à ce moment-là, on met les journalistes à son service. Alors que l'attitude ordinaire, c'est comment pas de compromission avec les journalistes, et puis on fait la cour à plein vent, y compris des très grands, hein, des gens très grands. Et donc j'ai vu des choses incroyables. Parce que les intellectuels ne réfléchissent pas du tout là-dessus, ils ont une espèce de narcissisme individuel. Quand ils sortent un livre, ils s'imaginent tout de suite qu'il n'y a plus que ça qui compte, ils sont pas très heureux. Et alors moi je suis de ces gens qui croient qu'il y a une force intrinsèque, qu'il n'y a pas de force intrinsèque des idées, mais qu'on peut les rendre fortes sous certaines conditions, que donc il y a un travail proprement scientifique pour donner de la force aux intellectuels. Bon, actuellement je travaille à ça, à créer une sorte d'international des intellectuels pour que, je sais pas, devant Tchernobyl, on voit bien qu'aujourd'hui on est gouverné par des épistémocrates, des gens qui se servent de la science pour gouverner, qui ne sont pas plus savants que Piquet, des économistes, vraiment. Et alors, en face, il n'y a aucun pouvoir suffisant. Donc, alors le problème, c'est comment donner à ces intellectuels isolés, etc., un pouvoir collectif. Faire en sorte qu'on puisse simultanément faire une conférence de presse à Londres, à Berlin, à Paris, même pas une conférence de presse. On apprend que M. Thatcher a vidé un jeune assistant de je reçois un téléphone de M. Thompson, de M. XZ. Bon, moi je prends mon téléphone, j'appelle deux, trois journalistes et je leur dis, vous savez, je viens d'apprendre. Bon, ils ne veulent pas, bon, parce qu'ils sont flattés d'avoir une information, je me sers de mon autorité de prof, alors si c'est pas moi, je me dis, bon, moi je suis un peu trop marqué, on va dire, bon, c'est ça, donc je vais téléphoner à Julie, je lui dis que tu prends ton téléphone, tu appelles le service du livre, etc., etc., et ça marche. Voilà. Et ça, si Habermas fait la même chose à Francfort, si Ekenis fait la même chose à Berlin, etc., donc ça, c'est un truc que j'essaie de mettre en place, une espèce de network comme ça. Parce que je crois que ça serait très utile, que c'est un pouvoir. Alors là, les intellectuels, ou bien ils vont aider la classe universelle, etc., ou bien ils font rien. Mais en fait, moi je pense qu'il faut faire du corporatisme, il faut que les intellectuels existent comme un groupe, ils ont des intérêts à défendre, collectifs, qui sont tout à fait respectables, publier des livres, ne pas censurer, que les journalistes ne disent pas n'importe quoi sur leurs livres, que s'ils disent n'importe quoi, on puisse leur répondre, alors qu'aujourd'hui, il y a n'importe quoi.